Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau week-end dans Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI, une émission qui s'aventure aujourd'hui dans les coulisses du football, un univers, on le sait, on le dit souvent, assez peu ragoûtant et d'un machisme, d'un sexisme révoltant. Voici ce qu'en dit Sonia Swede. Au fil des années, je mesure à quel point les femmes sont invisibilisées dans le football. Elles sont tout aussi performantes et talentueuses et méritent d'exister au même titre que leurs homologues masculins. Sonia Swede, c'est l'une des rares femmes à s'être imposée dans la jungle des agents de joueurs. On lui doit notamment une grande première, l'arrivée d'une entraîneur à la tête d'une équipe masculine professionnelle. On doit également à Sonia Swede un témoignage courageux contre l'ancien président de la Fédération française de football, un témoignage qui a contribué à la chute de ce dernier. Son parcours ne se résume évidemment pas à cet épisode, elle le raconte dans un livre « Touche pas à mon QI » aux éditions Solar. Sonia Swede, invitée de Mondial Sport ce samedi sur RFI. Bonjour Sonia Swede.
Bonjour.
Alors quand on vous a demandé de choisir des chansons qui comptent pour vous, c'était évidemment pour vous faire quelques surprises. Vous avez notamment choisi ce morceau culte de Gloria Gaynor, « I Will Survive ». Faut-il encore le présenter ? Inofficieux de la victoire des Bleus en Coupe du Monde 1998. C'est un moment fondateur de votre passion pour le football. C'est pour ça que vous aimez ce morceau ?
Oui, oui, c'est pour ça que j'aime ce morceau. 98, c'est ce qui m'a donné envie d'exercer un métier dans le monde du football. Donc, j'oublierai jamais. Ça m'a marqué positivement à vie.
Bon, on est un peu de la même génération, donc ça fait figure de Madeleine de Proust pour moi également. Je vous comprends. N'en touche pas à mon QI, vous dénoncez notamment le sexisme dont vous avez été victime en tant que femme dans ce monde très masculin qui est celui du football et des agents en particulier. Invité de Mondial Sport également pour parler de sexisme dans le monde du foot et du sport, Siani Dalma. Bonjour Siani.
Bonjour à toutes et tous.
Vous êtes journaliste, grand reporter, on peut même dire, non
oui.
Au quotidien, l'équipe qu'on ne présente pas non plus. Vous aussi, vous avez trouvé votre place dans un univers viril, on peut le dire comme ça. Le monde du journalisme sportif n'est pas toujours un exemple en matière de mixité.
Ouais, effectivement, je me retrouve souvent toute seule.
Dans les tribunes de presse.
Exactement, conférences de presse. Mais voilà, avec le temps, on arrive à faire évoluer les choses et puis on s'impose, on gagne en crédibilité quand on travaille bien, on va dire.
Avec nous aussi Mariem Salmi, psychologue et psychothérapeute responsable, longtemps responsable du suivi psychologique à l'INSEP, c'est l'Institut National du Sport et de l'Expertise et de la Performance. Pour le dire plus simplement, la fabrique des grands sportifs en France. Vous avez quitté l'INSEP en 2021, il y a quelques années. Bonjour Mariem.
Bonjour.
Et vous êtes la première psychologue dans la délégation française à des Jeux Olympiques. C'était Pékin 2008, c'est-à-dire la première fois qu'une psychologue, qu'un psychologue accompagnait des Français aux Jeux Olympiques, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Hommes et femmes confondus, donc.
Hommes et femmes confondus.
D'accord. Vous avez aussi publié un livre, « Croire en ses rêves et trouver son chemin » aux éditions Fayard. On recommande également. Et puis Sarah Danin, notre consultante, ancienne championne d'escrime, et là, bonjour Sarah.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Double championne du monde, médaillée olympique de bronze à l'épée, évidemment. Sonia Swede, quand et comment êtes-vous devenue agent et surtout pourquoi ? Pas seulement parce que vous aimiez Gloria Gaynor ou l'équipe de France 98, j'imagine.
Alors, quand en 2010, donc il y a déjà 15 ans, et comment ? En fait, à 25 ans, j'étais encore complètement perdue dans ma vie. J'explique évidemment longuement tout ça dans le livre. Mais je savais deux choses, que j'aimais le sport, voilà, en tant qu'ancienne volleyeuse, et que j'aimais négocier, parce que j'ai eu la chance de pouvoir suivre un apporteur d'affaires dans l'immobilier, et j'ai compris que la négociation, c'était mon truc. Et un jour, j'habitais à l'époque à Paris, je vais chez mes parents à Clermont-Ferrand, et lors d'un déjeuner, j'explique mon désarroi à mes parents, et je leur dis, je suis complètement perdue, je sais pas quoi faire de ma vie. Et mon père, il me dit, mais si t'aimes négocier, Sonia, et que le sport te manque, pourquoi tu deviendrais pas agent ? Et tout simplement.
Votre père qui était dans le monde du sport aussi.
Du tout. Oui, il était préparateur physique dans le monde du football aussi professionnel. Moi, je ne connaissais pas du tout ce métier. Je ne savais même pas que ça existait, les agents. Et en fait, j'ai été étonnée parce que ça a été assez simple de m'inscrire, parce qu'il suffisait d'envoyer un chèque de 200 euros et son CV à la Fédération française de football. Et je me suis inscrite, mais j'avais que 4 mois pour réviser afin d'obtenir la licence.
C'est-à-dire que vous aviez un premier obstacle pardon, à surmonter, un temps très limité pour obtenir ce qui est vraiment le Graal, hein, c'est l'obligation, il faut l'avoir, cette licence pour être agent. Et déjà, à ce moment-là, tout le monde vous dit que ça va être compliqué et vous le faites quand même.
En fait, il n'y a que mon père qui me dit « Écoute, tante, de toute façon, tu n'as rien à perdre. De toute façon, tu es perdue. Donc, autant te dire que tu n'as rien à perdre. Vas-y, essaye, tente ta chance. Inscris-toi. Et de toute façon, ce sera toujours une bonne expérience. Même si c'est un échec, ce sera une bonne expérience. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais fait que 2 premières années de médecine. C'est-à-dire que vous pouviez me parler d'anatomie, je ne sais pas, de biologie moléculaire, mais de droit, jamais. Je n'avais jamais étudié le droit. Et en fait, la licence que l'on passe auprès de la Fédération française de football, c'est que du droit, droit du travail et aussi c'est toute la réglementation au niveau national et international du football qu'il faut apprendre évidemment par cœur. Donc j'avais 4 mois, mais c'est vrai qu'en fait le fait d'avoir fait ces 2 premières années de médecine m'avait donné une certaine méthodologie de travail et c'est grâce à ça que j'ai réussi à obtenir ma licence d'agent de footballeur du premier coup.
Mais alors, bon, félicitations, avec un peu de retard, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a la licence, c'est pas toutes les portes qui s'ouvrent. Très vite, il y a beaucoup d'hommes qui vous font comprendre qu'une jeune femme, c'est pas exactement une chose à laquelle ils sont habitués.
En fait, quand j'obtiens ma licence, bon, déjà sur les 400 personnes qui ont tenté leur chance cette année-là, finalement, il y a que 18 personnes de reçues, une seule femme. Et moi, naïvement, à l'époque, je pensais que c'était le plus difficile d'obtenir cette licence qui se traduit par une carte en plastique que l'on reçoit de la part de la Fédération française de football, voilà, avec notre numéro de licence, le logo de la FFF dessus. Mais on est incollable en théorie quand on obtient la licence. Mais de toute façon, quand on obtient n'importe quel diplôme, j'imagine. Mais en revanche, en pratique, c'est quoi devenir agent? Donc ça, j'avais vraiment aucune idée. Et ce que je me suis dit, autant essayer de devenir, je ne sais pas, stagiaire, aller apporter les cafés aux meilleurs agents, au moins auprès d'eux. Si j'arrive à les côtoyer au quotidien, je vais comprendre ce qu'est le métier d'agent et comment essayer de réussir, en fait, et d'essayer d'apprendre auprès des plus grands, tout simplement. Et grâce à mon réseau dans l'immobilier, je réussis, c'est un exploit à l'époque, à obtenir un rendez-vous avec Jean-Pierre Bernès, donc à l'époque vraiment considéré comme un des meilleurs agents français et même au monde, hein, puisqu'il représentait quand même Laurent Blanc, Didier Deschamps, Adil Rami, Franck Ribéry, enfin, donc vraiment le Graal. Et en fait, j'ai très vite déchanté. Il a été courtois avec moi, mais il m'a juste dit, Sonia, enfin, c'est très compliqué même pour un homme d'exister dans ce milieu. Alors pour une femme, il me regardait des pieds à la tête en me disant, je suis désolée, mais en gros, il y a vraiment peu de chance. Et ensuite, il me dit, mais je vous donne un exemple. Je vous envoie chez Franck Ribéry. Vous pensez vraiment que Wahiba, sa femme, va être ravie de vous voir débarquer chez eux? Et là, en fait, c'est vrai que j'ai été assez choquée. Je me suis dit, mais... Et donc, j'avais beaucoup de répartie. De toute façon, j'ai toujours eu de l'aplomb, du culot, de la répartie. Je lui dis, tentez le coup. Envoyez-moi chez les Ribéry. Moi, je suis d'origine algérienne, comme Wahiba. Peut-être que j'ai beaucoup plus de choses. Ça, j'ai certainement beaucoup plus de choses à lui dire que vous. Et on ne sait jamais. Peut-être qu'elle aimera ma vision féminine du métier. Mais essayez. Peut-être que je deviendrai le nouvel agent, en fait. On ne sait jamais. Et là, il a souri. Mais bon, il n'a pas donné suite. Je n'ai jamais servi le café à Monsieur Bernès. Mais en revanche, quelques années plus tard, il a quand même suivi mon parcours et il m'a donné ma chance quand il a vu que j'avais fait mon réseau dans les pays du Moyen-Orient. Il m'a mandaté pour représenter quand même Didier Deschamps et Laurent Blanc dans ces pays-là. Donc finalement, grâce à mon travail et mes compétences, il m'a ouvert quand même la porte à une collaboration.
Oui, vous avez réussi à en ouvrir des portes, mais il a fallu mettre le pied.
Tout le temps se battre.
Comme voilà. On dit, tout le temps se battre. Peut-être un tour de table avec celle qui m'entoure en studio, Sarah Danint. J'imagine que ça vous plaît quand vous entendez ce genre d'anecdotes, de phrases. Vous imaginez sa femme, elle ne va pas vouloir que vous soyez représenté par une femme. Je rigole, mais...
C'est clair que c'est un propos sexiste et même, je ne sais pas s'il n'a pas un peu hyper sexualisé aussi, peut-être le truc, je ne sais pas, mais en fait, c'est très étrange. étrange. Après, ce qui est bien, c'est effectivement que Sonia, je me permets de vous appeler par votre prénom, c'est...
Avec plaisir.
C'est tenu à son objectif, à son projet. Et de toute façon, je pense qu'on en parlera au fur et à mesure, mais je pense qu'on a toutes plus ou moins... enfin. Plus, surtout, connu plein de situations où, de toute façon, on a été obligé d'avancer malgré les freins ou les petites peaux de banane gentiment déposées à notre attention.
Myriam Salmi, ça vous surprend aussi, j'imagine que non, vous qui avez connu aussi le monde du sport, ce machisme. Toujours. Alors, Sonia Sui nous parle d'une époque qui remonte à 15 ans, alors tout avance très vite, et dans le football aussi, donc ça peut paraître très loin, mais c'est vrai que ça paraît, même par rapport à l'époque, extrêmement archaïque, ce machisme presque de principe.
Je pense que c'est quelque chose effectivement qu'on a toutes connu, hein, au-delà des trois personnes qui sont réunies et avec Sonia Souïd. D'abord, bravo à des femmes comme Sonia Souïd, vraiment je le pense sincèrement, il n'y a pas de démagogie dans ce que je dis.
Merci.
Mais effectivement, ce n'est pas simple aussi de dire les choses. Moi, effectivement, je suis aussi une femme, et en plus je suis psychologue, ce qui était, j'ai démarré il y a 30 ans. Donc vous imaginez, femme et psychologue, au moins agent c'est un métier, au moins entraîneur c'est un métier, psychologue c'était pas un métier. Donc oui, on a toutes subi ces choses-là. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on voit à travers, j'ai lu le livre de Sonia Souïd, effectivement ce qui caractérise ses parcours, hein, c'est quand même la détermination et la passion. C'est assez impressionnant de voir qu'à travers une passion, le défi aussi, parce que rencontrer des difficultés aussi énormes, et ce mot n'est pas disproportionné par rapport aux difficultés qu'on rencontre, quand on les dépasse, c'est une telle satisfaction, je pense que ça vaut beaucoup de podiums olympiques et beaucoup de podiums mondiaux, que d'arriver à dépasser ça parce qu'on rencontre cet acharnement, ces freins, ces inhibitions. Alors, je pense que c'est aussi important de souligner, hein, parce qu'il y a des gens magnifiques aussi, hein, des gens qui ouvrent les portes, la preuve, hein, sinon on ne serait pas là non plus. On ne réussit jamais seul. Mais je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est ça, oui, c'est cette envie de se dépasser. Je pense qu'on est toutes, même si, en tout cas, moi, je n'ai jamais fait de sport de haut niveau, mais bon, voilà, je fais de la gym, aujourd'hui, je pratique le karaté. Les défis, ça fait partie des choses aussi qui caractérisent ce monde-là. Et je pense que quand on s'intéresse à ce monde-là, je vais dire une banalité, mais c'est important de le rappeler, c'est pas par hasard qu'on s'intéresse aux gens qui réalisent les performances. C'est que ça fait écho
à un esprit de compétition qu'on peut avoir soi-même éventuellement. Céline Dalma, donc vous avez un esprit de compétition, j'imagine, pour vous imposer dans le monde du journalisme de foot, la rubrique foot de l'équipe. Est-ce que ça vous a permis de suivre très vite et depuis assez longtemps la trajectoire de Sonia Souïd, au-delà de ce que vous avez pu découvrir en lisant son livre?
Avec Sonia, on se connaît depuis très longtemps. Je me rappelle, j'avais fait un portrait d'elle dans l'équipe il y a une dizaine d'années qui s'appelait Chercher la femme. On revenait sur son parcours, effectivement, qui est assez inspirant. On est de la même génération, donc je pense qu'on a évolué parallèlement dans le même, finalement, écosystème, celui du football. Et moi, je dis toujours que c'est... alors déjà, globalement, le sport, mais le foot encore plus, c'est un monde d'hommes, fait par les hommes, pour les hommes. Donc c'est très difficile, quand on est une femme, de s'y imposer, d'accepter les codes qui sont parfois pas en rapport avec... avec nos valeurs, avec ce qu'on est. Et je comprends très bien cette anecdote qu'elle raconte avec Franck Ribéry. En fait, moi, par exemple, j'ai des fois l'occasion de discuter avec des agents, des hommes, et je trouve que c'est pas pareil un journaliste homme et un agent qui va discuter. Il va lui demander un truc, il n'y aura pas cette supposition qu'il peut se passer autre chose qu'une relation de travail. Et par contre, moi, il m'est arrivé d'avoir des... discussion avec un agent où tout de suite je lui dis on peut aller prendre un café juste pour parler, et tu sens qu'il faut quand même faire attention parce que alors que t'as pas envie d'en mettre. Et donc je trouve que c'est toujours plus difficile pour nous parce que on aimerait que ce soit facile, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais il y a toujours des gens pour qui il y en aura, et moi je trouve que c'est ce qui peut ajouter de la difficulté à ce métier là et donc ouais, je comprends tout à fait ce que Sonia a pu vivre.
Ta-da!
Sonia Swede, on épluche votre playlist. Une autre chanson qui vous accompagne, Stevie Wonder, Part-Time Lover. Ça aussi, ça vous donne de l'énergie pour casser les murs.
Ah bah depuis ma naissance, hein, mes parents ils me mettaient déjà à l'époque le Walkman. J'avais quelques mois avec Part-Time Lover et Stevie Wonder et cette chanson. Et je bougeais mes petits pieds, dansais dessus. Et c'est vrai que cette chanson, elle me donne une énergie folle. Voilà, à chaque fois que je suis... que je suis pas de très bonne humeur ou que je manque d'énergie, ben je l'écoute et ça me rebooste tout de suite.
Oui, parce que quand on lit votre livre, on est impressionné aussi par la manière dont vous pouvez rebondir après avoir affronté certains obstacles et surtout certains comportements. Siani Dalma parlait d'un article qu'elle vous avait consacré, Chercher la femme, c'était ça
le
titre. C'est mieux qu'une miss au pays des mille et une nuits. C'est un titre qui vous a vraiment été consacré, je crois, dans la presse locale il y a quelques années, Sonia Swede, oui. Parce que vous êtes allée du côté du golf pour faire décoller votre carrière d'agent. Alors moi, la première fois que j'ai lu des articles sur vous, et je pense qu'on est nombreux dans le grand public à vous avoir découvert par... une double signature dans votre club de cœur, celui de votre ville natale, à savoir Clermont Foot. Été 2014, vous parvenez à convaincre Clermont Foot de nommer une femme sur le banc d'un club professionnel de football pour diriger l'équipe masculine. C'est une première mondiale, elle s'appelle Helena Costa, elle est portugaise. Le problème, c'est que cet événement, il tourne au gros couac très vite.
Oui, malheureusement, elle n'a jamais dirigé ne serait-ce que le premier entraînement, son premier entraînement, parce qu'elle a décidé de démissionner. Et en fait, ça a été très embêtant parce que il y a 130 journalistes quand même du monde entier qui sont déplacés pour l'officialisation d'une femme, parce que en fait, à cette époque-là, c'était je pense la première fois au monde qu'une femme ait pu diriger une équipe professionnelle masculine de football. Et encore aujourd'hui, plus de 10 ans après, aucune autre femme n'a pu. Donc, c'est sûr que quand elle a décidé de démissionner avec Claude Michi, l'ancien président du Clermont Foot, on a voulu vraiment se mettre dans un trou et qu'on nous enterre vivants, parce que en voulant défoncer un mur infranchissable, parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment de l'ordre du miracle d'arriver à convaincre un président de donner sa chance à une femme. Ben, finalement, on avait réussi simplement à se ridiculiser. Finalement, heureusement...
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous dites que c'était une première, mais en fait, il y a eu une deuxième, quelque part.
Oui, voilà, il y a eu une deuxième. C'est Corinne Diacre qu'on a réussi à convaincre avec M. Claude Michi. Elle a dirigé cette équipe pendant 3 années. Elle n'a pas moins bien fait que ses prédécesseurs. Elle a prouvé qu'une femme pouvait très bien entraîner des hommes au plus haut niveau. Et ce que je veux dire, c'est que c'est ce que j'explique dans le livre. Je la remercierai jamais assez parce que je pense que si on n'avait pas réussi à convaincre une autre femme, je ne sais pas si aujourd'hui je serais en train de vous parler, en tout cas agent, sincèrement, parce que ça aurait été très difficile de rebondir. Pourquoi en fait j'ai voulu convaincre un président, parce que ça c'est important de... En fait, je suis consciente d'être une pionnière. On est quand même moins de 5% encore aujourd'hui en France à exercer le métier d'agent. Et en tant que femme, j'ai toujours voulu aider d'autres femmes. Voilà, à exercer aussi des métiers dans ce monde du football très fermé. Et ça, ça se traduisait aussi, il n'y avait pas assez d'entraîneurs, femmes, aussi par rapport aux joueuses du football il y a 15 ans. Je pense que je suis un des premiers agents à m'être intéressée aussi en France au football féminin. À l'époque, vraiment, il fallait s'y intéresser parce qu'il y avait vraiment rien, il y avait tout à construire. Mais j'ai toujours eu à cœur d'aider d'autres femmes parce que je pars du principe que la solidarité féminine, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir dans un monde ultra concurrentiel et masculin. Et voilà, et aujourd'hui, bravo, chapeau à Corinne Diacre, vraiment.
Même si la solidarité féminine que vous appelez de vos voeux, vous ne l'avez pas toujours reçue en retour. Cette nomination d'une femme à la tête d'un club professionnel et d'une équipe masculine, ça reste quand même un événement à l'échelle, non pas seulement du football, mais du monde du sport. Myriam Salmi, est-ce qu'on réalise à quel point c'est quasi une révolution dans le monde du sport professionnel? Et plus de 10 ans après, est-ce qu'on prend la mesure vraiment de cet événement?
J'ai même pas l'impression qu'on prend la mesure de cet événement. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Allez,
On a été dérangé. Alors, je vais préciser pour nos auditeurs, on a des cris parce qu'on a des supporters de Lille et de Monaco qui s'affrontent en ce moment en Ligue 1 et qui sont également nos collègues.
En tant que psychologue, j'allais sortir pour voir s'il n'y avait pas une crise à gérer.
Voilà, vous vous êtes cru dans un hôpital psychiatrique. Non, nous sommes bien en direct dans RFI et à l'extérieur de notre studio, un supporter donc de Lille ou de Monaco a donné de la voix et vous a interrompu. Donc oui, une femme à la tête d'un groupe d'hommes, vous en tant que psychologue, vous pouvez imaginer le choc que ça peut représenter dans les imaginaires de ce monde-là. Surtout le football de haut niveau.
Oui, le choc et la transgression. C'est des choses qui ne se font pas, ça ne fait pas partie des codes du football, de la culture du football. Donc c'est un événement, oui, historique dans l'histoire du football.
Siani Dalma, c'est quelque chose qui a été suffisamment pesé parce que Corinne Diacre, elle a été très critiquée. Déjà à Clermont pour son management qui pouvait paraître psychorigide. Donc là encore, on pourrait voir si une femme est jugée de la même manière quand elle est sévère qu'un homme. Et puis évidemment, Corinne Diacre, c'est l'équipe de France et cette fin terrible où elle est victime d'un putsch, on peut le dire comme ça, par les joueuses de la sélection alors qu'elle était sélectionneuse. Mais est-ce que finalement, avec le recul, on doit pas lui rendre hommage d'avoir été une pionnière et donc rendre hommage à Sonia Sweet qui a permis à cet événement qui, pour l'instant, n'a pas vraiment de suite, malheureusement.
Bah déjà, moi, Sonia, je l'avais plutôt découverte, si je ne me trompe pas. Sonia, tu as fait le premier transfert payant dans le foot féminin avec Marie-Laure Dely.
Oui, tout à fait.
C'était comme ça aussi quand c'était...
En 2013.
Exactement. Et donc, c'est vrai que derrière, l'arrivée de Corinne Diacre a clairement mis en lumière son travail, mais déjà avant ça, elle avait déjà fait quelque chose d'assez unique. Et effectivement, Corinne Diacre, moi, je l'avais connue avec l'équipe de France, elle était adjointe de Bruno Bini. Et je l'imaginais pas du tout entraîner les garçons. Enfin, ça se faisait pas à l'époque. Donc, c'était vraiment une déflagration dans le monde du football. Et moi, je m'attendais à ce que ça ouvre beaucoup plus de portes derrière. C'est un peu décevant qu'on n'ait pas eu d'autres femmes dans des équipes professionnelles. Parce que, pour le coup, qu'on me dise que des femmes puissent pas jouer avec des hommes, parce que physiquement, il y a des différences, je peux l'entendre. Mais pour le coup, entraîneur, c'est un métier où il faut faire marcher son cerveau. Et là, je vois pas vraiment de différence. Et encore une fois, on en revient au fait que le sport soit quand même assez hermétique au fait de faire rentrer des femmes à des postes à responsabilité, à des postes comme celui d'entraîneur. Et moi, je pense qu'ils gagneraient justement à avoir beaucoup plus de femmes entraîneurs. Ça ferait énormément de bien. Je dis même entraîneuse, moi. Je me réapproprie ce mot. Je trouve ça important. Et c'est marrant parce que jeudi dernier, j'étais avec Camille Abili et Sonia Bonpastor à Londres. Donc, elles entraînent Chelsea, qui est quand même le meilleur club anglais. Et je leur ai demandé si elles pourraient entraîner un jour un club masculin. Et c'est des super joueuses. Elles ont été des super joueuses. Elles ont un palmarès en or. C'est des super entraîneuses. Elles ont remporté la Ligue des championnes. Et elles ne s'imaginent pas entraîner des hommes, quoi. Elles se disent qu'elles n'ont pas cette légitimité. Oui, alors que c'est, elles passent des diplômes. Enfin, je veux dire, elles ont des vraies compétences. Elles n'arrivent pas encore à se dire qu'elles pourraient entraîner des hommes.
Ça redonne.
Parce qu'en fait, c'est fou, une question de représentation, en fait.
Oui, tout à fait, c'est ce qu'elles disent.
Clairement, même on voit encore avec les JO, les soi-disant premiers jeux paritaires, enfin presque paritaires, donc on ne va pas dire soi-disant, mais au final, ce qu'il y a comme proportion, c'est des chiffres pas très... Enfin, peu de journalistes femmes, toujours.
On est tellement peu dans la...
Mais en plus, dans cette proportion-là, encore moins de femmes journalistes qui commentent les épreuves sportives masculines, oui. Alors que l'inverse ne se fait pas. Enfin, chez les hommes, au contraire, ils commentent aussi bien les épreuves masculines que féminines. Et pour revenir au jeu, en fait, ou même à cet exemple, c'est que finalement, on se rend compte que, ben, comme il n'y a pas beaucoup de femmes, ben, que ça soit pas suffisamment de sportives représentées, pas suffisamment de journalistes représentés, pas suffisamment de femmes présidentes de fédérations, ou même femmes présidentes d'une boîte du CAC 40, si on sort sport, mais en tout cas, ce que ça envoie, c'est que finalement, ça nous empêche en fait d'imaginer qu'on est capable de faire ça, qu'on est capable d'être ou d'y arriver. Et on est...
Il n'y a pas de modèle qui permet de se projeter.
Ouais, et c'est important. Moi, quand je regarde à 16 ans, quand j'ai vu Laura Flessel devenir championne olympique, moi, ce jour-là, je me suis dit, je serai médaille olympique. Parce que justement, c'est quelqu'un qui me ressemblait, alors qu'avant, j'avais que des modèles masculins. Qui me ressemblait pas et on sait quel impact ça a, notamment sur le cerveau, sur l'envie, sur l'engagement. Et encore aujourd'hui, on se retrouve encore coincé et encore avec, parfois même, pour revenir encore sur les athlètes, sur des champs lexicaux liés à notre beauté qui, en plus, impactent notre performance sportive. Et on est quand même en 2025, c'est encore un peu triste d'entendre ou d'arriver encore à ce genre de propos, quoi.
Myriam Salmi, vous vouliez...
Oui, juste... compléter, évidemment, je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a encore autre chose, c'est que ces femmes connaissent par cœur ce milieu. Et elles savent ce qu'elles vont devoir affronter. Il n'y a pas qu'elles ne se sentent pas à la hauteur, parce qu'elles savent qu'elles pourront entraîner des hommes. C'est qu'elles savent ce qu'elles vont devoir affronter au quotidien. Ça va être ça le plus difficile. Ce n'est pas d'entraîner les hommes qui sera difficile. On n'a pas encore, contrairement à ce qu'on dit, il en est de même pour la psychologie. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je me bats pour ça. Alors évidemment, tout le monde dit aujourd'hui, ça y est, on parle de santé mentale. Mais il y a des gens dans l'ombre qui travaillent et qui le vivent. Moi, pour moi, on a été trop lent. Bien évidemment, c'est normal. Je comprends qu'on pense autrement que moi. Mais c'est ça l'idée. On n'a pas seulement à avoir des femmes compétentes qu'on a déjà. Ouais. On a aussi à faire un gros travail sur les représentations dans le système. Et ça, il va falloir du temps, oui. Et des gens qui accompagnent cette démarche.
Sonia Swede, vous vouliez réagir après, on passera à l'actualité, mais je voulais quand même que vous puissiez poursuivre.
Ce qui me chagrine, c'est que Corinne Diac, donc, c'était en 2014. C'était la deuxième femme à avoir obtenu le BEPF, donc le fameux Graal pour pouvoir entraîner, le diplôme nécessaire pour pouvoir entraîner les équipes professionnelles masculines. Mais aujourd'hui, donc, ça veut dire en 11 ans, elles sont peut-être que 4 ou 5 en plus et encore à avoir obtenu ne serait-ce que le diplôme nécessaire. Donc, vous vous rendez compte, on avance, mais vraiment à pas de fourmi. Et en 2025, ça fait peur. On va mettre combien de temps à faire vraiment bouger les lignes et faire en sorte que plus de femmes puissent s'exprimer dans n'importe quel corps de métier, dans le monde du sport ou du football professionnel? Des centaines d'années, c'est ça qui est... Et aujourd'hui, d'où mon témoignage. C'est un vrai coup de gueule, cri du cœur. Ça suffit, en fait. Il faut que ça bouge.
Et ben, vous allez continuer à le pousser, ce cri du cœur, dans Mondial Sport sur RFI. Mais tout de suite, le point sur l'actualité sportive de ce samedi.
Mondial Sport.
Bonjour Florence Valmet.
Bonjour Hugo.
La fin des barrages de la Ligue des Champions cette semaine. On va passer au championnat. Ce week-end, on retourne au championnat après la victoire de Rennes hier soir 1-0 contre Reims. La 23e journée de Ligue 1 en France. Donc, se poursuit aujourd'hui avec des cris dans nos couloirs et un duel entre concurrents directs.
Oui, Lille, 4e, qui accueille Monaco en ce moment 3e. Et le LOSC mène 1-0.
Donc, je le dénonce, Sofiane Amazian. C'était lui l'auteur du cri tout à l'heure.
Exactement. Des Lillois qui sont dans une bonne dynamique en ce moment après leur qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Monégasques ont été éliminés cette semaine par le Benfica Lisbonne. Ne leur reste donc que le championnat. Objectif, rester dans la course au podium. Et pour cela, il va falloir revenir au score. Également au programme de cette journée, il y a Saint-Étienne, Angers et Auxerre, Marseille. Marseille qui, rappelons-le, s'était incliné dans son vélodrome en novembre dernier face aux Auxerrois sur le score assez lourd de 3-1. Mais ce n'est plus le même OM depuis. En revanche, il lui manque quand même un joueur essentiel, Léo Balerdi, qui est suspendu.
Ça joue également en football en Europe et en Angleterre, 26e journée de Première Ligue, Florence.
Oui, et Arsenal qui joue actuellement sur sa pelouse contre West Ham. Et pour le moment, eh bien, le match ne tourne pas en la faveur des Gunners. 5-0 pour West Ham. Arsenal, dauphin de Liverpool, va devoir se réveiller pour espérer décrocher les 3 points de la victoire. Objectif, se rapprocher des Reds et ne plus avoir que 5 longueurs de retard. Liverpool qui se déplace chez Manchester City demain.
Il y a du rugby également dans l'actualité. 3e journée du tournoi des 6 nations, l'Irlande qui s'est difficilement imposée face au Pays de Galles.
Oui, les favoris du tournoi tiennent leur rang avec une victoire 27-18, mais ont été inquiétés par des Gallois courageux, derniers au classement et qui menaient à la fin de la première période. C'est une 3e défaite pour le 15 du Poirot qui entrevoit une nouvelle fois la cuillère de bois. Dans quelques minutes, l'Angleterre, victorieuse de la France il y a 15 jours, va tenter de confirmer ce succès et affronte l'Écosse dans son antre, à Twickenham. Et puis demain, la France jouera à Rome face à l'Italie.
Allez, pour terminer, Florence, on part en Suisse. Les mondiaux de biathlon et une belle médaille d'or du relais féminin français cet après-midi.
Lou Jean Monod, Océane Michelon, Justine Brézaboucher et Julia Simon ont excellé et se payent le luxe de franchir la ligne d'arrivée avec plus d'une minute d'avance sur leur poursuivante, la Norvège et la Suède. Elles conservent leur titre, glané l'an dernier à Nové Mesto en République tchèque. Le relais homme termine à une belle deuxième place derrière la Norvège de Johannes Bø. La France compte 6 titres et 12 médailles dans ces mondiaux.
Merci Florence Valmet. Avant de refermer ce point sur l'actualité, l'actualité, vous dire qu'hier matin, au tribunal correctionnel d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo, Tadjou Attada, a été condamné pour harcèlement moral à 6 mois de prison ferme, 500 000 francs d'amende et à une amende d'un franc symbolique. Il était accusé, en fait, de harcèlement sexuel par l'athlète Mariama Cissé. On vous en avait parlé, on avait entendu Mariama Cissé dans Mondial Sport. Les faits ont finalement été requalifiés en harcèlement moral. Le reportage de Yuen Gourli.
À la sortie de la salle d'audience, Mariama Cissé a enlacé sa famille et ses amis venus la soutenir. Un peu plus d'un an après sa plainte pour harcèlement sexuel, la taekwondoïste était soulagée de voir son ancien entraîneur enfin condamné.
Par la grâce de Dieu, on a pu avoir la victoire. Parce que c'est pas moi seule qui a eu cette victoire-là. Toutes ces filles qui n'ont pas pu parler aujourd'hui, elles aussi, je pense que ça va leur faire plaisir d'entendre ça. Ce que j'espérais, c'était qu'il soit reconnu coupable. C'était mon souhait le plus ardent. Je crois que c'est le bout du tunnel qui compte. Je pense que ce combat-là va interpeller d'autres personnes, même si ce n'est pas dans le milieu du taekwondo. On n'est pas condamné à vivre cette situation, en fait. Donc, si on a l'occasion de parler, il faut qu'on parle. Parce que le pire, c'est de ne pas essayer.
Mariama Cissé espère maintenant servir de modèle pour toutes celles qui sont victimes de harcèlement et de violence. À ses côtés, son amie Audrey Akachia, une autre athlète venue témoigner durant le procès pour des faits d'attouchement, était admirative du combat mené par son amie.
Elle était très forte, elle n'a pas du tout relâché. Malgré tout ce qui se disait derrière, elle n'a pas relâché, elle n'a pas abandonné. Elle a continué dans la lutte et je ne peux qu'être fière d'elle en fait. Ma grande soeur d'amour que j'aime de tout mon cœur, voilà. Je suis tellement fière d'elle. Tellement. Elle mérite en fait. Tout le monde mérite, on mérite, mais elle mérite plus de ne pas avoir lâché.
C'est aussi une victoire pour son avocate, maître Francine Akangui, qui assure que ce dénouement est une première dans le monde du sport ivoirien.
En général, ce genre de dossier n'arrive pas jusqu'au jugement. Vous voyez, on a toujours des règlements à l'amiable, des pressions familiales, des pressions du monde même du sport, etc., qui font que souvent les victimes laissent tomber avant la fin de la procédure. Et c'est bien la première fois qu'un dossier arrive jusqu'à une décision de justice et nous en sommes très satisfaits. Mariama a ouvert la boîte de Pandore parce que à la faveur de ce procès, j'ai été contactée par des athlètes d'autres fédérations qui veulent me voir pour voir comment dénoncer justement des faits de harcèlement dont elles ont été victimes. Donc harcèlement sexuel ou harcèlement moral, de toute façon, c'est prévu et puni par le code pénal. Et vous voyez, on a eu une décision quand même de condamnation et c'est satisfaisant.
Par ailleurs, la plainte de la Fédération ivoirienne de taekwondo pour atteinte à sa réputation a été jugée irrecevable. De son côté, maître Panfolier Koulibaly, l'avocat de Tadjou Attada, n'a pas encore annoncé si son client allait faire appel. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
Mondial Sport sur RFI, Sonia Swid, agent de footballeur, autrice du livre « Touche pas à mon cul » et notre invitée, avec nous aussi Myriam Salmi, ancienne psychologue à l'INSEP, Siani Dalma, journaliste à l'équipe, et notre consultante Sarah Daninthe. Sonia Swid, malheureusement la transition avec le précédent sujet est rapidement trouvée, parce qu'on va continuer à parler de violences sexistes et sexuelles. Vous avez accusé Noël Le Graët, et ça c'est forcément l'un des passages forts de votre livre, Noël Le Graët, d'avoir eu des comportements répréhensibles à votre rencontre. La justice a ouvert une enquête pour notamment harcèlement sexuel, enquête classée sans suite. Cette affaire a participé néanmoins à la chute de l'ex-président très puissant de la Fédération française de football. Alors, sans forcément revenir sur les faits, on va plutôt encourager les gens à lire votre livre. Vous demandez si vous mesurez maintenant, plusieurs mois après, l'importance qu'a eu ce témoignage, le courage qu'il a fallu avoir pour aller témoigner. C'était dans les colonnes justement du journal de Siani Dalma, l'équipe, que vous en avez parlé la première fois, c'est ça ?
Oui, tout à fait, couplé avec BFM. C'est vrai que, en fait, je me suis dit, parce que juste pour rappeler, j'ai pas pu porter plainte contre Monsieur Le Graët. Parce que c'est vrai que quand j'ai été entendue par le brigadier donc de la police judiciaire de Paris, il m'a lu l'article 222.33 du code pénal qui qualifie le harcèlement moral et sexuel. Et en fait, j'aurais dû laisser l'opportunité. Enfin, en gros, il aurait fallu que Monsieur Noël Le Graët me piège, par exemple, plusieurs fois dans son appartement, que ce soit vraiment des événements répétés. Et comme ça s'est passé qu'une seule fois, et qu'ensuite Noël Le Graët, je ne lui ai pas donné l'opportunité, même si pendant 4 ans, 4 très longues années, il n'a pas cessé de m'appeler, de m'envoyer des messages, de m'inviter, que ça a été épuisant. Vous savez, ce numéro d'équilibriste entre, oui, c'est quand même le boss du football français, on ne peut pas l'envoyer complètement dans le rosier, Mais en même temps, on ne peut pas non plus être trop aimable parce qu'autrement, il va croire que c'est vraiment épuisant quand c'est quotidiennement. Et surtout, le fait de ne pas être considéré comme une professionnelle après tout ce qu'on a réussi à faire et à démontrer nos compétences, que le boss du football français nous réduise simplement à un corps et qu'il ne considère pas du tout notre cerveau, c'est très humiliant et blessant. Ceci dit, donc, plusieurs années plus tard, à l'aube de mes... Oui, j'avais à l'époque 38 ans, je venais de donner naissance à ma fille, mon deuxième enfant. Et c'est vrai que je me suis dit, Sonia, si tu dénonces pas, aujourd'hui, je pense que le silence n'est plus une option. Dans quel monde va vivre ta fille si on dénonce pas ? Aujourd'hui, il n'y a plus le choix, je pense. Pour que des futurs potentiels Noël Le Graët, entre guillemets, réfléchissent à 1000 fois avant de se comporter de cette manière avec d'autres professionnels, femmes, ben je pense qu'à un moment donné, il faut dénoncer. Et j'ai trouvé ce courage en moi. Je savais que j'allais forcément dans un mur parce que forcément, on ne s'attaque pas à une personne à l'époque. Noël Le Graët, c'est bon, c'est non seulement le boss du football français, mais c'est vraiment le roi et la Fédération française de football, son royaume. Moi, je suis un agent sportif licencié auprès de la Fédération française de football, donc il peut très bien trouver le moyen de retirer ma licence, il peut trouver le moyen de mettre un point final à ma carrière. Je savais que les répercussions, elles seraient plus négatives que positives, hein. Il y avait vraiment que des risques à prendre, mais pourtant, je me suis dit, est-ce que tu vas pouvoir te regarder dans un miroir si tu le fais pas ? La réponse a été très claire, non. Alors je l'ai fait. Voilà, j'ai dénoncé ce comportement. Ça a contribué à la chute de Noël Le Graët, mais c'est ce que j'écris dans le livre. J'estime qu'il s'est bien abîmé lui-même pendant quand même quelques mois et années, et j'ai été, on va dire, que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Mais alors, ce qui est hallucinant, pardon de parler comme ça, mais c'est que son successeur, lors de la Coupe du Monde, à l'issue de, pour les Françaises de la Coupe du Monde féminine en Australie, elle était 2023, son successeur, Philippe Diallo, vous explique que bon, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes plus la bienvenue aux tables de la fédération, au dîner des choses de l'équipe de France. Voilà, on a quand même ce phénomène de protection, quoi.
Oui, en fait, Philippe Diallo, donc le nouveau boss du football français, par solidarité avec l'ancien boss, me dit, alors que je représente plusieurs internationales françaises, que je suis considérée quand même en France comme l'un des meilleurs agents dans le monde du football féminin, devant plusieurs de mes clientes, devant ma famille, mes enfants, alors que je porte mon bébé dans les bras. Non, mais c'est ça aussi. Et il me dit, il me prend de côté à la réception de cet hôtel où avait lieu donc le dîner d'après-match suite à cette terrible élimination, et il me dit que, compte tenu des récents événements avec la Fédération française de football et donc l'ancien président, ma présence n'est pas souhaitée. Ça a été terrible parce qu'il m'a humiliée, discrédité, ridiculisé devant mes joueuses. C'est-à-dire qu'il aurait pu lui aussi réduire à néant. Si je n'ai pas une relation forte avec les joueuses que je représente depuis des années, elle pourrait se dire, mais attendez, il y a le boss du football français qui traite mon agent, donc celle qui me représente, celle qui défend mes intérêts, celle à qui j'ai confié la gestion de ma carrière, il la traite comme si c'était un insecte à écraser absolument. Donc il aurait pu vraiment me nuire professionnellement comme jamais, et je n'ai pas accepté parce que j'étais victime d'une terrible injustice. Et je raconte donc tout cet épisode de manière détaillée dans ce livre, et c'est terrible. En fait, vous savez, quand on est une des rares femmes à exercer ce métier, je ne demande pas à être plus considérée qu'un homologue masculin ou à être, mieux traitée. Mais quelquefois, c'est tellement difficile d'exister et de durer dans ce monde-là. Si en face de moi, un jour, j'avais le boss du football français juste qui me tapait à l'épaule et qui me disait « c'est bien, Sonia Swede, continuez », ça ferait plaisir. Voilà, des encouragements, ça ferait vraiment plaisir.
Bon, je pense qu'autour de la table, on a envie de réagir à ce que vous venez de raconter. Siani Dalma, déjà peut-être cette déflagration qu'ont représenté les accusations de Sonia Swede contre Noël Le Graët. Voilà, encore une fois, comme elle le dit, il faut mesurer la puissance et l'importance de ce personnage, même si à ce moment-là, il y a des choses qui commencent un petit peu à sortir. Et puis la réaction de Philippe Diallo qui montre bien comment il y a quand même quelque chose un peu clanique, quoi. C'est-à-dire, même si vous dénoncez justement des choses... L'institution va réagir et se protéger et vous punir derrière.
Bah, c'est sans doute pour cette raison qu'il y a de nombreuses victimes qui n'osent pas parler aussi, parce qu'elles mesurent aussi les conséquences. Là, Sonia a pris ben, tout le courage qu'elle avait, parce que c'est vraiment pas facile pour dénoncer ce qui lui est arrivé. Et je pense qu'au lieu de la mettre de côté, il aurait plutôt fallu l'encourager et la soutenir et lui apporter du soutien. Donc effectivement, cet épisode est assez choquant. Moi, je l'ai découvert effectivement avec le livre. Et voilà, au-delà du cas de Sonia, qui est déjà très grave, on comprend mieux pourquoi beaucoup de victimes n'osent pas parler. Et quand elles le font, il faut absolument les soutenir, parce qu'on parle souvent des accusés dont la vie serait potentiellement détruite, mais les conséquences sont très souvent beaucoup plus graves pour les victimes qui ont, la plupart du temps, beaucoup plus à perdre que leur bourreau, ça c'est sûr.
Myriam Salmi.
J'ai été auditée dans le cadre de la commission d'enquête de la commission parlementaire à propos des dysfonctionnements. Et,
au sein de la Fédération française de football.
Notamment, mais il y avait toutes les fédérations.
D'accord.
C'était assez stupéfiant, effectivement, de voir ces fédérations être complètement interloquées, d'avoir à rendre des comptes sur un certain nombre de situations qui ont été évoquées par des femmes, notamment, extrêmement courageuses. Et c'est la... En tout cas, moi, ça fait 40 ans que j'exerce. C'est la première fois. Et c'est un véritable soulagement. Hein, ce n'est pas fini. Hein, il y a d'autres. Moi, j'ai eu malheureusement à traiter des victimes de violences sexuelles et de harcèlement moral dans le milieu du sport. Hein. Et quand cette commission est arrivée, je peux vous assurer que pour ça a été parce que des femmes ont eu le courage de témoigner. Et la Fédération française de football est évidemment extrêmement puissante. Elle dépasse le cadre, le territoire national, hein, on en est bien conscient. Mais d'autres fédérations, moins puissantes que la Fédé de football, ont eu ce type de comportement. Donc, tous ces témoignages de ces femmes, c'est un engagement extrêmement difficile, parce qu'elles vont se mettre en porte-à-faux. Et effectivement, on est dans un monde extrêmement clanique, de consanguinité, au sens où tout le monde se connaît depuis très longtemps. Ce sont les mêmes qui sont là. Comment vous voulez parler quand vous savez, et quand vous savez ce qui va vous arriver? Alors, MeToo est arrivé, et vraiment, ça a fait énormément de bien au monde sportif. Malheureusement, il a fallu attendre MeToo. Parce que quand on est dans ce monde-là depuis longtemps, entendre la souffrance de ces victimes sans qu'elles soient reconnues, que ces victimes se fassent éjecter, évacuer de ces endroits, et que les bourreaux continuent à agir, je peux vous assurer que même en tant que professionnel, moi qui suis tenue au secret professionnel, par moment, on n'a pas envie de tenir le secret professionnel. Hein. Croyez-moi, c'est extrêmement difficile. Plus pour les victimes que pour moi. Hein. Je ne voudrais pas paraître indécente. Hein. Mais même quand on est professionnel, on est touché, parce qu'on est aussi des êtres humains. Et de voir ça, hein, et d'entendre dans votre bureau la souffrance de ces victimes, hein, et de ne pouvoir rien faire. Hein, parce que porter plainte, déjà, il faut qu'on retienne votre plainte, qu'elle soit reconnue. Mais même si la plainte est en cours, vous vous retrouvez mis sur le banc des accusés, en fait. Hein. Donc, je ne voudrais pas décrire ce monde comme un monde affreux, avec que des situations comme ça, parce que si j'y suis, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens bien, mais il y a ça, et MeToo nous a rendu beaucoup de services, oui.
Sarah Danhart, quand vous avez découvert ces passages, donc relatifs au comportement de Noël Le Graët et à la réaction de son successeur, le nouveau président de la Fédération française de football, quelles ont été vos réactions?
Alors déjà, j'ai pensé à des personnes que je connais qui ont subi et qui ont réagi, et qui ont repris entre guillemets le pouvoir, peut-être, je sais pas, je suis pas à leur place, mais moi c'est comme ça que je le vois. Après, pour revenir à Sonia, en fait, ce qui est fou, c'est que finalement, il faut défendre ses compétences, presque les justifier pour finalement être réduite à un corps, quoi, presque un morceau de viande même pour certains. Je vais à l'extrême, mais pour l'avoir déjà entendu, je me permets de le dire. Et au final, bah en fait, le sport, ça reste toujours une bulle de la société, quoi. Donc même si l'exemple c'était Monsieur Le Graët, son successeur dans la foulée lui met la misère. Et bah c'est aussi ce qui se passe dans une entreprise, c'est ce qui se passe dans d'autres fédérations. Et c'est difficile de se dire que finalement on essaie de faire tomber, enfin, de régler les choses, donc en faisant tomber un agresseur, un oppresseur, et que derrière, ben, il est soutenu par d'autres personnes, et que tout son clan, en fait, est soit au bord de la fédération, soit... ils restent tous décisionnaires, quand
c'est
même.
C'est un système, donc, finalement, qui n'est pas tant...
C'est de l'entre-soi dégueulasse, et... pour se sortir de ça, ça reste très compliqué. Il y a plein d'athlètes, il y a aussi des kinés, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi des kinés et des journalistes qui subissent des propos et des comportements physiques aussi qui n'ont pas lieu d'être, d'exister d'ailleurs, en soi.
Bon, c'est un constat. Je crois que toutes les prises de parole ont été importantes et on continuera d'en parler, évidemment, dans Mondial Sport, de ces questions-là dans le monde du sport. Pour revenir peut-être au terrain, Sonia Swede, Siani Dalma le disait tout à l'heure, vous avez été une pionnière dans pas mal d'aspects, notamment dans les transferts de joueuses, puisque vous êtes derrière l'agent, derrière le premier transfert féminin payant d'une joueuse. De ce côté-là, est-ce que le monde du foot rattrape un petit peu son retard par rapport à la société? Est-ce que ça se développe vraiment, comme on dit, le football féminin et aussi, quelque part, son business et son écosystème?
Alors, le football féminin, depuis 2010, donc l'obtention de ma licence en 15 ans, oui, a évolué. Si on parle du premier transfert, c'est vrai qu'à l'époque, Marie-Laure Delis donc est passée de Montpellier au Paris Saint-Germain. Et en fait, le Paris Saint-Germain a été le premier club en France à débourser, c'était 60 000 euros, mais c'était la première fois qu'un club déboursait le moindre euro pour acheter le contrat d'une joueuse. Donc, c'était une grande première. Là, cet hiver, il y a eu deux très gros transferts dans le foot féminin qui ont même dépassé le million d'euros. Donc, les choses évoluent grâce notamment à des hommes, hein, et c'est bien de l'avoir rappelé lors de ces échanges, c'est que pour moi, les hommes sont décisionnaires, hein, majoritairement décisionnaires dans ce milieu, et sont des alliés. Et je parle en bien, hein, de certains qui m'ont vraiment aidé oui, et tendu la main dans ma carrière, parce qu'autrement, je ne serais pas là aujourd'hui. Je pense notamment à Jean-Michel Aulas, ou alors à Louis Nicolin, mais ces deux personnes ont fait énormément pour l'évolution du foot féminin en France. À une femme aussi, parce qu'on parlait de modèle. Moi, quand j'ai débuté en tant qu'agent, je n'avais pas de modèle non plus. Femmes féminines dans ce secteur. Et c'est vrai que c'est à l'aube de mes 40 ans, l'année dernière, j'ai rencontré enfin la femme qui m'inspire dans le monde du football sport business. C'est Michelle Kang, donc propriétaire de l'Olympique Lyonnais, de London Lioness City en Angleterre ou de Washington Spirit. Cette femme milliardaire qui investit massivement dans le foot féminin pour aider ces femmes à pouvoir s'exprimer dans les meilleures conditions, parce qu'elles le méritent tout autant que leur homologue masculin. Et donc, ça évolue, mais bon, malheureusement, selon moi, pas assez vite. C'est vrai que si on parle de la France, on a pris quand même on était en avance. Malheureusement, on a pris quand même beaucoup de retard à côté de certaines nations. Mais je suis une éternelle optimiste. Voilà, pour moi, je suis assez positive. J'ai hâte de vivre les 10 prochaines années parce que je sais que justement, le futur, finalement, du football est féminin. Parce que vous savez pourquoi? Parce que dans le football masculin, finalement, quelque part, la marge de progression, on a déjà atteint les sommets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Mais en revanche, dans le football féminin, il y a absolument tout à construire.
Sonia Swede, eh ben, écoute, on va rester sur cette note d'optimisme. L'émission touche à sa fin. Merci également à Siani Dalma.